CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, une offre promotionnelle. Des sens perturbés. Une envie irrépressible. Et un découvert bancaire. L'équipe aujourd'hui, Solarus et Dascritch, notre interviewé Florence Suprin, conseil en marketing olfactif. Et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux. Et on est prié de ne pas péter dans les rangs, merci. Allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour à toi Solarus.
Salut.
Bonjour à Florence Suprin qui nous rejoindra tout à l'heure en cours d'émission. Et bonjour d'ailleurs à ceux qui étaient au THSF. Et que là, c'était l'émission qu'en fait on aurait dû enregistrer dimanche, mais qu'en fait on enregistre quelques jours après parce que, c'est un petit peu compliqué. Mais en attendant, bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui as sûrement besoin de ce magnifique menhir purement breton, un accessoire d'aménagement de ta résidence qui te rendra sûrement jaloux tes voisins. Attention, je n'en ai qu'un stock très limité, alors appelle vite pour en acheter plein avant qu'il n'y en ait plus. La méthode d'attaque constatée des publicités se base désormais non pas sur ce qui t'apporte un produit vanté, mais sur ce que tu es susceptible de devenir grâce à cet objet. On ne te vend plus une voiture pour la facilité des déplacements, mais par exemple parce qu'elle te donne de l'énergie ou qu'elle a un look à aller dans tous les soirs dans les événements les plus hype. Donc je déconne à peine, hein, c'est les pubs actuelles. C'est ça. Mais encore, pour que cette stratégie d'attaque sur ton lobe consumériste fonctionne, il faut savoir taper juste dans tes pulsions, dans tes envies. En clair, un publicitaire est la personne qui va hacker la serrure de ton cerveau et trouver la clé qui permet de te faire acheter ce dont tu n'as pas forcément besoin.
Je suis celui qui pénètre votre cerveau. Je jouis dans votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. L'idéal serait que vous commenciez par me détester avant de détester l'époque qui m'a créé. Mais je ne vais pas travestir la vérité. Je ne suis pas un gentil garçon. Je suis une grosse merde. Un héros moderne, quoi.
Jean Dujardin, extrait du film 99 francs. Le neuromarketing est peut-être le recoin le plus noir de la publicité. On utilise les outils de la biologie neuronale pour hacker le cerveau des consommateurs cibles. Les premières méthodologies de neuromarketing datent de la propagande politique juste avant la Seconde Guerre mondiale. Après tout, nous n'aurions pas conquis l'Allemagne sans le haut-parleur, disait Hitler à peine élu en 1933. Et je sais, tout d'un coup, la radio, ça fait froid dans le dos. Ben oui, la politique aussi en abuse parfois instinctivement. Vous vous souvenez de la scène devant le Conseil de sécurité de l'ONU où le ministre américain Colin Powell brandit une soi-disant fiole d'une arme toxique ? Ce ne sont pas les autres diplomates qui l'essayaient de manipuler, mais l'opinion publique qui allait voir les images après coup. Comment, dans une enceinte aussi sécurisée, peut-on y faire entrer une charge létale d'une arme biologique ? La réponse importe peu. Les spin doctors de George W. Bush ont taclé dans tes réflexes de peur. Afin d'avoir des métriques exactes et pour mieux taper juste les voies suivantes, le non-marketing utilise des outils très poussés comme par exemple la RMN pour faire un ECG, ceci afin de voir si la couleur rose incite plus à l'envie de chaussures les filles plutôt que la couleur bleue. Et des fois, ces truismes apparents méritent une analyse plus approfondie qui peut amener vers des surprises. Oui, je te parle d'utiliser des outils pour te faire modifier ton opinion. Des choix rationnels afin d'acheter un magnifique menhir afin de décorer ton salon, alors qu'objectivement, et oui, je sais, c'est agaçant de parler d'une façon aussi désinvolte des méthodes de manipulation mentale, surtout quand on parle de la manière dont on te manipule très facilement, comme qui rigole. La meilleure défense face à la manipulation reste la connaissance. Savoir ce qui rend plus appétissant d'aspect devrait allumer une lumière de doute. Avoir ce doute quand on tente de trop embellir doit permettre de mieux analyser les besoins. Mais voilà qu'avec mon texte d'ouverture, je joue depuis 5 minutes avec ton cerveau en te disant que tu es intelligent. En fait, je te manipule. Je suis une grosse merde. Et tu auras d'autant plus tendance à prendre pour argent comptant ce que je te dis, puisque je te dis ce que tu souhaites entendre. En fond du futur immédiat, dans les fables de Jean de La Fontaine, un corbeau lâche un camembert d'avoir été trop flatté. C'est pourquoi je te conseille d'acheter immédiatement ce magnifique menhir, vu qu'il ne m'en reste quasiment plus qu'un stock, très limité jusqu'à la prochaine rediffusion. Un mash-up de deux artistes connus pour utiliser énormément de procédés bizarres de musique. Come Close Together, un mash-up entre The Beatles et Nine Inch Nails, t'en avais un sur deux.
Ouais.
Mais il n'était pas évident, hein. C'est extrait de l'album Further Down the Spiral. Donc c'est pour ça qu'il est un peu, c'est un peu moins connu finalement de cet auteur. Et du coup, toi, de quoi vas-tu nous parler ?
Ben, on va essayer de faire un peu le tour rapidement du neuromarketing. Pour vous parler du neuromarketing, c'est l'application des neurosciences au marketing et à la communication. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu lassé des études de marché, du marketing à papa. Fini d'essayer de répondre aux besoins des clients, il faut aujourd'hui créer le besoin, le faire intégrer au client comme une sorte d'inception. Alors ce que les gens ont retenu du film Inception, c'est que c'était de mettre un rêve dans un autre rêve, c'est pas du tout ça. L'inception, c'est implanter une idée dans le cerveau d'une personne pour lui faire croire qu'elle vient de lui. Et donc, si vous espérez convaincre vos cibles, oubliez tout de suite. Ici, pas de conviction, car pas d'argument. Il faut faire appel à l'affectif et au sentiment de la cible. C'est de la persuasion pure et simple. Une des techniques les plus connues, c'est l'utilisation des biais cognitifs, et notamment le kalos kagatos. En grec, ça veut dire ce qui est beau et bon, ce qu'on appelle également l'effet de halo. Comme son nom l'indique, l'effet de halo va vous permettre de juger une personne sur son apparence. Ainsi, un vendeur en costume et chaussures cirées avec une belle voiture de fonction vous paraîtra plus intelligent qu'un vendeur en jean basket.
Ce Post-it Jobs, il a montré l'inverse.
Oui, on peut aller chercher Steve Jobs et Zuckerberg comme exemple, mais c'est des cas à la marge. Hein. Donc en dehors de la Silicon Valley, vous allez vous référer à ce que vous pouvez, à la montre, aux vêtements et tout ça. Ce genre de méthode est connu depuis longtemps, c'est le principe d'incitation. Il ne suffit pas de générer du temps de cerveau disponible, il faut aussi remplir ce cerveau avec ce qu'on veut lui faire penser. Par exemple, les vendeurs de voitures savent très bien qu'en vous mettant au volant de la voiture et en vous la faisant essayer, il y a beaucoup plus de chances que vous repartiez avec. D'une manière générale, mettre un objet dans les mains du client attise son désir et la volonté de conserver l'objet. Il y a une frustration à ressortir du magasin sans l'objet quand on l'a eu en main et qu'on l'a essayé. Dans un autre registre, un son, une musique peut vous évoquer une publicité ou une marque qui aura utilisé, parfois usé jusqu'à la corde, cette mélodie à la télévision ou à la radio. Dans un supermarché, on peut trouver des lumières rouges au rayon boucherie pour améliorer la couleur des viandes. Et dans certaines allées, une subtile mais artificielle odeur de pain vous rappellera d'acheter votre baguette quotidienne. Et sans oublier bien sûr le démonstrateur qui vous proposera de goûter une délicieuse tranche de jambon pour vous convaincre d'acheter le sien plutôt qu'un autre. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Il s'agit avant tout de faire appel à nos cinq sens élémentaires et à notre instinct primal afin de court-circuiter l'intellect et le processus de décision sensé. Tout cela afin de provoquer l'achat de manière irréversible. Le caractère invasif revendiqué par le neuromarketing fascine autant qu'il fait peur, surtout au vu de sa finalité. Et c'est peut-être là la limite du neuromarketing. Il ne sert qu'à faire acheter. Il utilise à son avantage des progrès de la médecine afin de servir des intérêts purement mercantiles. Et cette question bioéthique intéresse autant ses détracteurs que le législateur. La France a d'ailleurs pris la décision d'interdire les techniques d'imagerie cérébrale à d'autres fins que la médecine et la recherche scientifique. Article 16-14 du Code civil. La définition du consentement est une chose importante dans le commerce comme partout ailleurs. La loi française exige et protège le consentement du consommateur grâce notamment au délai de rétractation en cas de vente à distance ou de vente à crédit. Si le neuromarketing possède réellement l'efficacité qu'il revendique, il ne serait pas étrange de voir le législateur se pencher sur cette question du consentement de manière un peu plus poussée à l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Florence Suprin, conseillère en marketing olfactif, pour parler neuromarketing.
C'était carré et petit utile.
Florence, bonjour. Donc, par où est-ce qu'on peut commencer ? Le neuromarketing, c'est une discipline assez récente. Qu'est-ce qui la caractérise et qui la différencie du marketing classique, du marketing à papa ?
Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Florence Suprin, effectivement, conseillère en marketing olfactif. Alors, on distingue effectivement ce qu'on appelle le marketing traditionnel, qui s'applique également au point de vente, au marketing sensoriel, qui va impliquer plus spécialement l'ouïe avec la musique en magasin et l'olfactif avec la mise en odeur d'espace de vente. Voilà, avec l'objectif de faire en sorte que le prospect, le client se sente bien et que du coup il flâne et remplit son panier.
D'accord, donc quand on va au supermarché et qu'on sent une odeur de baguette qui nous donne envie d'acheter du pain, c'est ça ?
Alors c'est vrai que l'odeur de baguette elle est naturelle pour les boulangeries. Moi spécifiquement on va pas travailler dans ce qui est l'odeur de baguette, mais c'est le principe, effectivement, vous sentez la baguette et ça vous procure l'envie de manger.
D'accord. Tu nous disais donc toi tu travailles sur d'autres choses, tu peux nous donner des exemples ?
C'est-à-dire vis-à-vis du marketing olfactif un peu.
Oui, voilà, le genre d'odeur, de secteur sur lequel tu travailles.
Alors, le type de secteur sur lequel je travaille, historiquement, ce sont les hôtels. Hein. On travaille également pour des aéroports. On va travailler pour des centres commerciaux, pour des boutiques d'enseignes. Et puis, donc là, c'est pour vraiment l'aspect retail, l'aspect vente sur site. Mais on a également des applications qui sont un peu autres, à savoir qu'on va par exemple travailler avec des maisons de retraite, où là, l'objectif, c'est de faire sentir des odeurs, de travailler sur les odeurs avec les personnes âgées pour soit leur remémorer des souvenirs, parce que c'est un des pouvoirs de l'olfactif, c'est-à-dire qu'à partir d'une odeur, il y a toute une évocation qui se met en place par rapport à ce qu'on a senti, ce qu'on a pu aimer dans le passé. Donc à ce niveau-là, au niveau des personnes âgées, c'est un dispositif intéressant pour leur faire travailler leur mémoire justement, mais aussi pour leur rappeler des réflexes simples, à savoir des odeurs alimentaires le matin, le midi et le soir, pour leur donner des repères dans la journée.
À noter d'ailleurs qu'on a déjà parlé justement des souvenirs que l'on peut faire revenir auprès des personnes âgées lors de l'émission qu'on a enregistrée avec Simon Sorp.
Donc pour prendre l'exemple des personnes âgées, donc on travaille sur les personnes âgées en général, sur celles qui ont Alzheimer, enfin est-ce que...
Alors, d'une manière générale, la mémoire, c'est voilà, ça peut se perdre avec le temps. Ça s'applique à des problèmes cognitifs généraux, on va dire, et effectivement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
D'accord. Pour revenir, donc tu parlais des aéroports et des hôtels. En quoi ces lieux-là ont intérêt à travailler sur les odeurs? C'est pas des lieux où, quand on pense aéroport ou quand on pense hôtel, on pense pas spécifiquement, on pense pas qu'ils ont un problème d'odeur, quoi.
Alors, l'objectif, là tu mentionnes d'éventuels problèmes d'odeur, ça peut être aussi indépendant du marketing olfactif. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans d'autres sociétés, mais à notre niveau, nous travaillons également dans la neutralisation. Donc ça va paraître, par exemple, intervenir sur des salles de sport pour neutraliser les odeurs de sudation, par exemple. Maintenant, pour revenir à tout ce qui est hôtel oui, on parlait des hôtels, des centres commerciaux, des aéroports. Le premier objectif d'une odeur, de la diffusion d'une odeur, c'est de combler les sens d'une certaine manière et de mettre l'individu dans un état affectif favorable. D'une certaine manière, quand ça sent bon, le corps s'en rend compte et le corps se détend. Enfin, disons que vous avez un état affectif positif. L'objectif de l'odeur, c'est de créer des états affectifs positifs. Maintenant, il y a un autre aspect au niveau de l'odeur, c'est-à-dire que par exemple, là on va parler de la madeleine de Proust. Donc Proust relate dans l'un de ses livres qu'il arrive quelque part et qu'il sent l'odeur de la madeleine qui le renvoie, alors qu'il a 40 ou 45 ans, qui le renvoie à ses 6 ans et qui le renvoie à un souvenir extrêmement précis d'une session où il buvait le thé avec sa grand-mère. Donc l'objectif de l'odeur, c'est de c'est de vous ramener un souvenir positif, de s'y associer et d'utiliser cette positivité entre guillemets pour se mettre dans la brèche et que vous associez le positif à la situation que vous êtes en train de vivre. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Si, mais... si, c'était très intéressant. Par contre, c'est vrai que tu parles énormément d'odeurs, je suppose que ce sont des odeurs agréables que vous cherchez, pour lesquelles on vient chercher votre entreprise. Mais est-ce que des fois, on vous demande justement où le besoin qui s'en ressort peut être parfois des odeurs désagréables, voire répulsives?
Alors, des odeurs désagréables ou répulsives, littéralement, pas forcément. Mais on va pouvoir, par exemple, pour le biais d'exposition, par exemple, on avait fait une exposition sur les poilus en Belgique. Là, il était question d'avoir l'odeur une espèce d'odeur de soufre, ou d'avoir des odeurs de terre parfois, ou qu'est-ce qu'on nous demande d'autre ou alors on va nous demander des odeurs de camphre. Pour rappeler la kinésithérapie ou les massages des sportifs, par exemple, sur des événements sportifs. Qu'est-ce qu'on peut... des odeurs... Là, récemment, on nous a demandé des odeurs de plastique brûlé. De pneus brûlés, pardon. Oui, de pneus brûlés. Mais des odeurs...
Je suppose que c'est pour inciter les ouvriers à ne pas aller en grève.
Oui, ça doit être ça, oui. mais des odeurs, on va dire, organiques, de décomposition, des choses comme ça, non, pas du tout, non.
D'accord. Ah. Oui, pardon.
Non, je disais, on va fonctionner sur des familles de parfums pour... nous, dans notre société, on va fonctionner avec un nez. Donc, on va qualifier la demande en amont et ensuite, on va la transférer à un nez qui va plonger plus précisément dans tout ce qui est mix marketing. Donc, c'est le positionnement de la marque, sa cible, sa charte graphique, par exemple, un peu tout le contenu qu'elle communique pour s'en inspirer et lui proposer des odeurs en adéquation avec ses valeurs de marque. Bref.
Alors, on a assez peu parlé, en fait, de toi, justement, de ton parcours, comment tu y es arrivé. Est-ce que ce serait dû par hasard, je ne sais pas, la lecture, par exemple, du roman Le Parfum de Patrick Souskind?
Alors, c'est un livre que j'ai lu récemment, très récemment même, que j'ai trouvé très intéressant de demeurant. Maintenant, moi, ce qui m'a intéressé au niveau du marketing olfactif, c'est que moi, j'ai une formation RH. J'ai un profil analytique et je me suis beaucoup intéressée à l'analyse des comportements des utilisateurs web. Auparavant, donc avec ce qu'on va appeler du media planning, du retour sur investissement ou du UX design, essayer d'anticiper les comportements des internautes. Maintenant, ce qui était intéressant avec l'essence, c'est que c'est un domaine qui est quand même relativement sous-exploité, on va dire, en tout cas l'olfactif. Et là, c'était une manière d'aborder le comportement de l'individu au travers des sens et plus précisément au travers de l'odeur. Et ce qui m'intéresse encore plus particulièrement à ce niveau-là, c'est que le nez est un sens primaire qui nous ramène un petit peu à un état d'animal, entre guillemets, à l'instinct. Presque au cerveau reptilien, on va dire, et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir connaître les pouvoirs de l'odeur et du parfum.
Alors justement, lors de ta conf que tu as fait au THSF, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on parlait aussi de la vue et de l'ouïe. Est-ce que l'odeur, en fait, justement, parle plus à des instincts primaires, finalement, par rapport à d'autres sens, par exemple le toucher ou le sens de l'argent?
Alors, c'est difficile, hein. Là, c'est vrai que j'ai tenté un petit peu de voir cet aspect-là sous la hiérarchisation des sens lors de la conférence. La manière dont je l'avais abordé, c'est que si on perd la vue ou on perd l'ouïe, on est extrêmement handicapé. Peut-être plus que si on perdait l'odorat, même si en perdant l'odorat, on perd le goût par là même. Mais d'un point de vue marketing, il y a effectivement quelque chose de très inconscient, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'évocation des souvenirs. Là, on va vraiment faire appel à l'individu en soi et à son patrimoine de souvenirs, on va dire. Donc, en ça, je trouve que le pouvoir des vocations est fort et très intéressant. Maintenant, le premier sens, ça va être l'ouïe. On va d'abord être attiré par quelque chose par l'ouïe. Même si l'odeur, alors on a deux niveaux au niveau du nez, à savoir que le premier c'est la détection et on va pas forcément l'emmagasiner, on n'a pas déjà cette odeur dans notre olfathèque, dans notre bibliothèque d'odeurs, ou alors on va la reconnaître et là c'est la porte ouverte aux évocations. Donc en ce sens, voilà, c'est un sens très pertinent. Maintenant, une hiérarchisation stricte, c'est difficile, mais on voit des marques qui vont s'attacher à utiliser plusieurs biais sensoriels en même temps. Alors, pas forcément tous, parce qu'ils ne s'appliquent pas tous à leur positionnement, on va dire. Mais globalement, c'est une démarche presque 180 degrés, en fait. 360, on va dire. Plutôt 360.
C'est vrai qu'on connaît, enfin, les sens sont très utilisés dans le secteur du marketing et de la vente pour tout le registre de la persuasion. Hein. On a la conviction avec les arguments et on a la persuasion, c'est tout ce qui fait appel à l'émotionnel. On connaît les techniques des vendeurs de vous mettre l'objet dans la main pour que vous ayez envie de le garder. On connaît effectivement les musiques de publicité qui vous restent dans la tête. Est-ce que l'olfactif, finalement, c'est pas soit trop discret pour être marqué, soit peut-être trop présent, comme je disais, la baguette de pain, pour peut-être... est-ce qu'il n'y a pas un risque d'agacement si c'est mal dosé?
Alors, c'est effectivement... là, pendant la conf, j'avais abordé un petit peu là, la manière dont je vois le métier, alors c'est très subjectif, j'ai certainement un parti pris, même si le but de la communication, c'est d'informer les individus des biais marketing qui sont utilisés à l'heure actuelle. Comme tous les biais marketing, en fait, il y a la possibilité que le destinataire, que le prospect soit complètement blasé. C'est ce qu'on voit avec la publicité traditionnelle. C'est que même les images subliminales, entre guillemets, ou la répétition à outrance d'un même message, là, il y a, d'une certaine manière, l'individu s'est complètement imperméabilisé à ce type de message. Il est possible que dans l'odeur, on vienne à cet effet-là si effectivement il n'y a pas une démarche de la profession pour rester dans la finesse. C'est-à-dire que c'est un métier d'artisan, c'est un métier d'art. Le nez est un sens hypersensible. Les odeurs ne plaisent pas à tout le monde. On voit qu'il y a des gens qui ont des allergies. Enfin, c'est extrêmement sensible comme démarche. Donc il y a un accompagnement qui doit se faire du prestataire olfactif tout au long de la prestation pour bien doser, être capable de faire des modifications au parfum, de venir régulièrement gérer la puissance de diffusion ou avoir des outils à disposition qui permettent d'avoir un contrôle de la puissance de diffusion, la programmation, voilà. Mais c'est un risque. Si jamais l'odeur est mal utilisée, on peut très bien arriver à ce qu'il y ait une cacophonie olfactive.
Coroner, The Lethargic Age, extrait de l'album Green. We'll be right back. Et nous sommes donc toujours avec Florence Suprin, conseil en marketing olfactif.
Donc, tu nous parlais donc de cette du risque de cacophonie d'odeur, de trop-plein. Ça t'est déjà arrivé justement de devoir aller chez les clients pour régler les diffuseurs ou vérifier un système?
Alors, oui, ça peut m'arriver très ponctuellement. En même temps, moi, j'ai pas la... Je dirais pas que je suis technicienne, je travaille avec une équipe à ce niveau-là. La cacophonie d'odeur, non. Parce que justement, on a du conseil aérolique qui va étudier les mouvements d'air et faire en sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie olfactive. Maintenant, ça peut arriver qu'un client nous appelle en nous disant est-ce que vous pouvez venir voir, j'ai l'impression que mon diffuseur est trop fort ou qu'il diffuse pas assez, et auquel cas on intervient sur ce type de problématique. Mais à notre niveau, ça fait partie de notre travail de justement anticiper ce genre de problématique.
Tu parlais d'un autre côté justement pendant la conférence que toi tu essayais de rapprocher le web par rapport au marketing olfactif. Alors en fait, comment ça marche?
En fait, quand j'ai travaillé dans le web, ce qui se passait, c'est que l'élément majeur, c'est que tu es globalement privé de presque tous tes sens quand tu es derrière un ordinateur. Tu as la vue principalement, le toucher avec le clavier, mais encore que on s'en rend plus vraiment compte. Donc il y a un rapport à la machine où on essaye en fait de faire vivre des émotions via simplement l'image. Et donc c'est en ça que les sens me paraissaient intéressants, c'est que d'un coup on a tous les sens à disposition. Donc entre guillemets, on n'a plus qu'à s'éclater puisqu'on a, comment dire, on est en open bar, entre guillemets.
Et justement, est-ce qu'il y a, de même qu'il existe une standardisation sur le design, sur le web, avec la typographie, avec les couleurs, etc., grâce aux feuilles de style et tout le reste, est-ce qu'un jour, on pourra imaginer que dans les CSS, il y aura toute une gamme de paramètres qui concerneront les odeurs en elles-mêmes? Est-ce qu'il existe déjà un standard pour les odeurs?
Alors, un standard pour les odeurs... Il y a quand même plus ou moins certaines odeurs qui sont applicables, enfin des catalogues de fragrances qui sont applicables à certaines activités. Maintenant, c'est un petit peu dommage de cantonner une activité à une liste restreinte de parfums. Maintenant, effectivement, au niveau des CSS, c'est quelque chose de tout à fait envisageable. On voit que sur le secteur, il y a déjà des clés USB parfumé, c'est-à-dire qu'on la branche sur son ordinateur, et puis il y a ce qu'on appelle le stockage relargage, donc c'est des systèmes de petites billes ou de petites barges de gel qui en fait via l'électricité va diffuser un parfum. Donc en sachant ça, on peut très bien se dire que il y a du potentiel de ce côté-là. L'odorama derrière son écran.
Je suppose que déjà l'une des grosses problématiques quand même vis-à-vis de ce genre d'appareil, ça va être toutes les pop-up de pub et tout ça qui vont pas arrêter de larguer. Si je vais sur un site d'un quotidien français, ça va empester dans mon bureau.
Alors, après,
ça va être flag.
Il doit y avoir une partie où la profession ou le client lui-même doit à un moment donné se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que je diffuse plein d'odeurs différentes. J'ai beaucoup de chance que d'arriver à une atmosphère désagréable ou irrespirable. Je pense que par l'expérience, on s'en rend facilement compte et qu'on recommettra l'erreur difficilement, je dirais.
Ça m'évoque un sujet un peu parallèle, mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi avec la réalité virtuelle? On en parle beaucoup en ce moment, de tous
oui.
ces casques de réalité virtuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi à rajouter de l'odeur à tous ces environnements virtuels?
Absolument. On voit que... Alors, c'est un marché encore un petit peu jeune, mais l'escape game, par exemple, s'intéresse s'intéresse à l'odeur. Maintenant, tout ce qui est casque 3D, réalité augmentée, absolument, c'est une des autres applications de l'odeur, c'est-à-dire venir renforcer un message sensoriellement, venir ajouter un contexte sensoriel supplémentaire à une situation vécue au travers du casque, absolument.
Ouais, c'est génial, mais on va plus pouvoir déconnecter les gens.
On parlait justement de l'expérience cinéma en préparant l'émission, puisque je crois que les premières expériences en odorama, ça date des années 50-60. Ça a été industrialisé avec les cartes à gratter dans les années 80-90, si je ne me trompe. Mais ça pose beaucoup de problématiques, la première d'entre elles étant l'aération de la salle de projection elle-même.
Alors, oui. Il y a plusieurs problématiques en fait dans les.
On t'entend très mal.
Alors, pardon. Alors, l'odeur en fait peut fonctionner. Alors, je sais pas quelle est ta question exactement. Dire que voilà, ça peut être aussi. Enfin, que l'odeur peut être. Comment dire, oppressante.
Oui, c'est-à-dire justement, même en voulant mettre trop d'odeur, moi-même je dois reconnaître que je ne vais pas dans certains hyper, j'évite certains rayons parce que les odeurs de détergent qu'on te fait bien sentir, ça me fait fuir tellement qu'ils en mettent au maximum, quoi.
C'est le. Enfin, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, à savoir que l'odeur c'est un sens primaire hyper sensible et que il y a effectivement beaucoup de possibilités de faux pas. Donc il y a une autorégulation qui doit se faire de la part des agents par rapport à ces techniques marketing pour ne pas faire un peu comme avec la publicité classique visuelle dans le métro par exemple, qui est extrêmement agressive. Donc là tu parlais d'agression, tu te sens déjà agressé par ce qu'est le marketing olfactif. Voilà, le problème c'est que on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que le marketing olfactif qui est le prolongement du marketing traditionnel, n'est pas qu'une étape vers une autre étape encore supérieure du marketing, parce que les gens vont s'y habituer, il y a une possibilité comme quoi il y a la pollution olfactive et que la population en soit complètement blasée et donc du coup complètement imperméable à ce type de message. Il peut y avoir une conscientisation entre guillemets, enfin le fait de consciemment finalement au bout d'un certain temps, se rendre compte consciemment de ce type de sollicitations sensorielles.
Et d'un autre côté, ce que tu disais aussi dans la conférence qui était extrêmement intéressant, et là on reparle plus du neuromarketing en termes général, c'est qu'on détourne finalement des outils médicaux pour voir ce qui a réellement un impact sur le consommateur potentiel. Et donc ça veut dire justement utiliser les IRM et tout ça, donc ça demande un sacré budget en soi, ce type de recherche, de travail. Qui peut se le payer?
Juste pour préciser une petite chose, au niveau du UX design par exemple, on faisait déjà appel au eye tracking, qui fait partie des technologies qui vont servir au niveau du neuromarketing, qui vont analyser un comportement, le comportement d'un sens pour s'appuyer dessus et pouvoir vendre mieux entre guillemets. Effectivement, comme tu le disais, l'outil principal pour observer le cerveau et voir si on touche les zones de satisfaction, les zones de plaisir au niveau du cerveau quand on sollicite un individu au niveau de ses sens, quel qu'il soit. Alors, c'est effectivement un des outils principaux. Maintenant, donc en France, normalement, c'est un outil auquel on ne doit pas avoir accès pour des besoins neuromarketing stricts. Ça doit s'appliquer effectivement au médical ou à la recherche. Maintenant, on voit de très grandes marques de restauration rapide ou des choses comme ça qui se sont intéressées dans d'autres pays que la France. À ces sociétés qui permettent de faire de la visualisation de stimuli dans le cerveau. C'est, voilà, il y a des, effectivement des grandes entreprises qui vont pas forcément passer par des artisans comme la société pour laquelle je travaille, et qui vont effectivement faire appel à des laboratoires, enfin à des instituts de recherche, et leur demander des études exclusivement neuromarketing. Donc ça veut dire proposer différentes fragrances à des individus pour un client, et se rendre compte de quelles zones du cerveau sont touchées et est-ce que c'est bien les zones du cerveau que l'on souhaitait solliciter.
Ça tombe bien, on va parler maintenant des messages subliminaux, et justement à partir de là, là on va commencer à entrer dans le bizarre. Le principe du message subliminal est de stimuler une action inconsciente par un message verbal ou visuel placé d'une manière trop rapide pour être consciemment compris par esprit. En 1957, un directeur commercial eut l'idée d'insérer dans un film projeté dans une salle de cinéma les messages « Drink Coca-Cola » et « Hungry, eat popcorn » pendant 3 dixièmes de seconde chacun. Buvez Coca-Cola et tu as faim, mange des popcorn. Je pense que vous l'avez compris. Non, bon, d'accord, ok. Les chiffres de vente qui auraient été provoqués par ces messages étaient très impressionnants. La CIA, extrêmement intéressé par de tels résultats, s'y pencha. Mais en fait, il se trouvait que l'étude en question avait été bidonnée par ce commercial qui tentait de se faire mousser. Coca, mousser... Ouais, la blague aussi, elle est subliminale, je suis désolé. On a longtemps soupçonné que la CIA soit passée à la pratique à très grande échelle dans les films. Mais à part dans un navet d'horreur, il n'en existe aucune trace. Ce qui montre que soit on est très très bien influencé, soit on est très 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 mauvais pour trouver les preuves, soit la CIA est très très efficace pour supprimer toute trace, soit il n'y a rien eu. Dans son film Invasion Los Angeles, John Carpenter imagine une population humaine manipulée par un festival de procédés piochés dans les théories du complot. Ondes, télévision, sons et images subliminaux. Et lors d'interview, le scénariste, musicien, réalisateur a confessé s'être beaucoup amusé en piochant allègrement dans les écrits complotistes. Parce que les images subliminales devinrent l'une des stars des théories du complot dans les années 70. En 1988, un homme avait porté plainte contre la chaîne Antenne 2, accusant la télévision publique d'avoir manipulé son vote avec le générique de son journal télévisé, présentant fugacement François Mitterrand, parmi d'autres images, dont les autres candidats. Plainte rejetée. Le son subliminal existe aussi. Les milieux religieux traditionnalistes et de nos jours, les sites de réinformation ont toujours allégué que la musique rock contenait des phrases subliminales pour pervertir la jeunesse. Renverser le son et triturer la voix humaine est une figure de style très utilisée depuis les Beatles, cachée dans une musique des messages satanistes. Tiens, plus de la blague potache.
Je t'ordonne en don de Lucifer de verser le sang des innocents.
Souvent sous l'influence non subliminale de ces allégations, le groupe Judas Priest fut poursuivi dans les années 85 par la famille éplorée de James Vance, un fan qui avait tenté de se suicider, tentative qui s'est soldée par de très graves séquelles dont il mourut 3 ans après. Le père soutenait qu'on entendait clairement « do it, fais-le » dit à l'envers sur un morceau. Sous cette accusation eut lieu un procès retentissant qui a été suivi par un réalisateur de documentaire. Et en regardant le dit film Dreamer Deceivers, qui d'ailleurs est ressorti l'année dernière en DVD, on découvre que l'ado était rejeté par celui qui était présenté comme son père, en fait un beau-père alcoolique. Du côté du groupe, le guitariste Glenn Timpton a écouté attentivement à l'envers l'album incriminé en entier et trouva fortuitement d'autres messages sibyllins comme « Hey ma, my chair is broken » Hey maman, ma chaise est cassée, ou help me keep a job, aidez-moi à garder un travail. En fait, en écoutant n'importe quelle chanson à l'envers, on peut croire entendre n'importe quoi de quasi intelligible. Des avocats et des experts se sont pressés à la barre devant les caméras de télévision, mais le jugement n'a rien pu démontrer quant à un éventuel message subliminal capable de manipuler les pensées. À ce jour, aucune étude n'a réussi à prouver que les messages subliminaux soient réellement efficaces. Et la meilleure preuve, ils ne sont pas utilisés alors que n'importe qui a les outils de montage pour pouvoir les mettre en évidence. Alors écoutez bien, il y a un message subliminal dans ce morceau. We'll be right back. c'est maintenant. Blooded Gang, Lift Your Head Up and Blow Your Brains Out. Alors, Blooded Gang est un groupe de rap parodique de la côte est américaine qui est à hurler de rire, à voir sur scène d'ailleurs. Ils sont vraiment trash à fond et ils font que des reprises complètement démontées et démentielles. Et donc, au beau milieu de l'album One Fiercer Beer Coaster, il y a donc un message renversé qui est en hommage à Judas Priest. D'ailleurs, d'abord, à l'endroit où on entend « I hope you take this wrong way ». J'espère que tu vas comprendre ça, tu vas très mal comprendre ce que je vais faire et complètement mal interpréter ce que je vais dire. Reviens en arrière et laisse-moi le faire à l'envers, complètement à l'envers, comme Judas Priest l'a fait la première fois. Et le message renversé, donc « The village will wake up and eat Chief Boyardee Beefaroni ». C'est-à-dire en fait que le fils du démon se lève et va manger des pâtes au bœuf en boîte. Avoue que c'est pas mal.
J'avoue.
C'est CPU sur FMR et nous continuons avec Florence Suprin, conseil en marketing olfactif. Alors justement, toi, quand on parle justement de ces messages subliminaux, qu'ils soient visuels ou sonores, quelle est ta réaction vis-à-vis justement de cette histoire ?
Alors pour avoir travaillé dans l'univers de la publicité pendant quelques années, il y a trois éléments assez forts. C'est que déjà en publicité, ce qui vend, c'est le sexe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'exposition crée le favoritisme. C'est pour ça que certaines marques s'affichent sur tous les t-shirts ou que certaines marques de téléphones ou de boissons gazeuses vont occuper le terrain de manière... vont avoir une omniprésence incroyable au niveau de tous les supports d'affichage. Donc c'est l'exposition crée le favoritisme. Et puis pour créer cette exposition, il y a un matraquage et une répétition du message de tous les côtés. Donc moi, à mon niveau, c'est les techniques de persuasion des individus en publicité. C'est exposer l'individu au message le plus souvent possible.
Est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'odeur est utilisée comme étant une publicité non consciente, pas balisée avec le message « attention, message publicitaire » ?
Absolument, à partir du moment où l'objectif c'est d'attirer votre attention, de satisfaire vos sens et de vous évoquer des situations agréables ou de vous apporter un bien physique positif via les odeurs, oui, bien sûr, c'est de la publicité et ça utilise un nouveau canal qui n'est pas encore vraiment utilisé, à savoir les sens. Mais alors, il y a une petite chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que on voit que l'olfaction, c'est un sens hyper important chez les animaux. À notre niveau, on a eu peut-être moins de besoins du côté de l'olfaction que certains mammifères. Maintenant, je pense qu'il y a un potentiel de développement du nez très important.
Pardon, excuse-moi.
Une petite précision. En fait, il y a des études, juste pour venir un peu appuyer ce que je viens de dire, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs études, qui disent que l'humain, alors il y en a une qui dit que l'humain reconnaît jusqu'à 1000 odeurs, il y en a une qui dit jusqu'à 4000, il y en a une autre jusqu'à 10 000, et puis il y en a une qui va jusqu'à 1 billion d'odeurs. Donc là, on peut effectivement, si on a 1 billion d'odeurs dans notre olfactech, on peut imaginer dans la hiérarchie des sens une bonne place dans le top 3.
Sachant que c'est vrai que le développement de la chimie organique à la fin du 19e et au début du 20e a permis de créer déjà pas mal d'odeurs. Ça c'est sur différents éléments. Tu parlais tout à l'heure justement des outils qui permettent de travailler vis-à-vis du web. Si quelqu'un souhaite s'y intéresser, avec quel est le budget? On peut commencer justement à bricoler dans son coin et à expérimenter.
Mais bricoler, expérimenter quoi exactement?
Justement, travailler sur les odeurs par rapport à une application ou quoi que ce soit. Toi, tu penses que ça prend combien de temps pour quelqu'un qui souhaite s'y intéresser en autodidacte?
Pour devenir un nez ou un olfactif profiler, pardon?
Oui, par exemple.
Alors ça, c'est... Je t'avouerai que je suis pas très calée dans le sujet. Sur le sujet, j'ai effectivement une de mes collaboratrices qui est née. Il y a effectivement des études de biologie. Maintenant, je t'avouerai que le cursus exact, je suis pas au fait.
Et actuellement, en fait, pour pouvoir diffuser les odeurs, bon, il y a tout ce qui est disponible, je vais dire, donc il y a les blocs de parfum, il y a les appareils de diffusion qui sont disponibles dans tous les magasins de Sono, Light, ou même d'équipements pour professionnels. Ça peut commencer à partir de combien le budget?
Alors, si tu veux, moi, à mon niveau, je travaille avec des professionnels. Donc les professionnels, ça va être des surfaces importantes, souvent. Ça va être, on va leur demander s'ils fonctionnent sur des systèmes de climatisation ou non. On va effectivement aussi faire en fonction de leur budget. Une stratégie olfactive, ça va commencer à 10 euros pour un particulier, c'est-à-dire s'acheter un parfum d'ambiance, vaporiser chez soi, de manière régulière, et puis au bout du bout, il y a une identité olfactive de la maison qui se met en place en répétant cette vaporisation. On apporte une identité olfactive à son lieu d'habitation. Donc ça peut commencer à 10 euros, en sachant qu'après, on a des appareils qui sont des diffuseurs à ultrasons qui vont coûter une cinquantaine d'euros, on va dire. Et là, on va mélanger du parfum ou des huiles essentielles à de l'eau. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire chez soi pour une surface, on va dire, pour une petite pièce, par exemple, 15-20 mètres carrés. Maintenant, il y a effectivement des petits diffuseurs sur la technologie de micro-nébulisation. On va être plutôt à 80 euros. Là, pareil, on va être sur des huiles essentielles ou du parfum pur. Donc ça, c'est pour des stratégies, des stratégies individuelles. Ensuite, une stratégie pour une année, pour une petite boutique qui fait 60 mètres carrés, on va dire qu'on est à... Oui, on est à 600 euros, tout compris à l'année.
D'accord, dire. Ok. Florence, avant de te laisser vaquer à tes occupations, juste une question qui est très personnelle et je suis sûr qu'elle est pas facile à poser, à répondre. Quelle est ton odeur favorite?
Moi, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes. C'est ce qu'on appelle des hespéridés dans le secteur. J'ai une préférence effectivement pour les odeurs d'orange, de pamplemousse, de citron, les odeurs fraîches qui pourraient être assimilées à des odeurs de propreté, mais c'est la propreté, le sport et la virilité, on va dire.
C'est pas mal du tout. Florence Suprin, merci beaucoup. Merci. De nous avoir accordé du temps. Normalement, on devait originellement enregistrer au THSF. On n'a pas pu, c'était un petit peu le bazar. Et finalement, je crois que ça aurait été plus simple au THSF, c'est te dire. Bon, en tout cas, c'était un plaisir que tu sois venu à Toulouse. La conférence aussi sera disponible prochainement, d'ailleurs, sur le site du THSF. Et on espère bien évidemment pouvoir lire de ta prose, justement, sur le domaine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, dont le générique est exceptionnellement inversé, l'équipe était composée de Solarus Chief Analytics Officer et d'Ascrit Chief AdSense Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio Éphémère. On remercie encore mille fois Mixar Miris, Tétalab, Teta Neutral et TV Bruit pour leur assistance durant le THSF. C'était vraiment un bonheur. L'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, c'est libre de droit. Et vous pouvez même remixer dans tous les sens. Voire chercher des messages subliminaux, il y en a peut-être. Prochaine release consacrée au biohacking, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h sur Radio Éphémère et sur le site cpu.pm. Tu crois que... peut-être que la partie olfactive s'intéresserait beaucoup quand même les invités de Monique maintenant dans les pièces de théâtre et tout, ouais. Non, ça va faire bizarre quand même la mouette de Tchekhov en odorama.